Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Conférence sur Radio Certitude, c'est la diffusion de l'enregistrement d'une conférence.
Nous allons écouter maintenant le pasteur Pierre Touchel nous parler sur le mépris des moments de Dieu.
Je voudrais ce matin partager quelque chose qui est important. Ça rentre dans toujours dans le thème général de saisir les moments de Dieu, mais on pourrait peut-être plus particulièrement appeler le thème de ce matin le mépris des moments de Dieu. Je crois que c'est important. Il y a des moments dans nos vies, j'y ai fait une légère allusion hier soir, il y a des moments dans votre vie où vous jouez votre destinée, vous jouez votre avenir, vous jouez la réussite, vous jouez l'échec. Vous jouez la bénédiction, vous jouez la malédiction, vous jouez le temps des exaucements, où vous ratez, parfois d'une façon irrécupérable, ce que Dieu voulait pourtant vous donner. Nous sommes une société relativiste, c'est-à-dire tout est parfait, on se laisse couler. Et c'est aussi cette mentalité qui est un petit peu dans l'Église, Dieu est bon, alors il va passer l'éponge. Et il y a toujours, Dieu est patient, toujours, et je crois que bien sûr nous sommes tous le résultat de la patience de Dieu. Mais je voudrais dire, il y a une différence entre la patience de Dieu et au moment où Dieu dit maintenant c'est terminé. Et j'aimerais ce matin partager avec vous certains points de la parole de Dieu afin qu'il nous aide à réfléchir pour que quand Dieu nous parle, nous ne le laissions pas passer parce qu'il risque de ne plus jamais nous donner cette possibilité. Ou peut-être les circonstances de la vie ne permettront peut-être plus à Dieu de nous reparler. Donc c'est le mépris de Dieu et des moments de Dieu avec leurs conséquences incalculables dues à notre légèreté. Pour introduire cela, je vous propose deux textes. Le premier se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 14. À partir du verset 14, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et maintenant, voilà le verset important. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume et ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Et puis, le deuxième texte se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8. Luc, chapitre 8. Verset 9. C'est le récit des terrains du semeur. Vous connaissez pour la plupart. Jésus raconte, il donne l'explication. Ses disciples, donc Luc 8, verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur a été dit ou leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits. Ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. J'aimerais donc, en faisant un parcours assez rapide de certains exemples dans la parole de Dieu, montrer comment des hommes ou des femmes, à un moment donné, quand ils ont été légers avec Dieu, ont eu des conséquences qu'ils n'ont plus jamais rattrapées. Le premier récit que nous avons lu ensemble, c'est celui d'Ésaü. Vous le connaissez pour la plupart, Ésaü, le fils aîné de Jacob, le fils aîné d'Isaac, pardon. Ésaü a eu à un moment donné, c'était un homme des champs, c'était un homme qui aimait bien sortir dans les champs, c'était un travailleur, chasseur, nous dit la parole de Dieu. C'était le fils donc d'Isaac, pardon. Et son frère Jacob était plutôt plus calme. Oh, nous dit la Bible, qui était resté auprès un peu des jupons de sa mère. C'était un homme calme qui restait plutôt dans les tentes. Et on voit les deux tempéraments de ces deux hommes se développer. L'un calme, l'autre travailleur, fonceur, viril, etc. Mais comme je le disais hier soir, ils ont tous les deux eu le même père et tous les deux ont eu le même grand-père. Ce qui veut dire que tous les deux ont été informés, tous les deux ont été sensibilisés à l'existence de Dieu, aux directives de Dieu, à l'appel de Dieu, à la vocation et à l'héritage que Dieu avait donné à Abraham au travers de la descendance, Isaac, etc. Et on voit, à un moment donné, dans la vie de ces deux hommes, quelque chose qui va changer totalement les choses. Ésaü a un droit d'aînesse, donc l'héritage spirituel en tant que fils aîné. Et l'autre, le plus jeune, Jacob, le supplanteur, lui, n'y a pas droit, parce qu'il est le cadet, mais en même temps, son cœur, lui, a été touché, et il veut ces choses-là. Et on voit, on ne le voit pas physiquement, je veux dire, pendant toutes plusieurs années, on ne voit aucun changement extérieur. On a l'impression que les deux sont les mêmes. Mais il y a toujours un moment dans votre vie, comme dans la mienne, où ce qui est au plus profond même de notre inconscient est amené à la lumière. Et à ce moment-là, tout se dessine. Et on voit donc Ésaü un jour revenir des champs et il avait faim, il était fatigué, et il voit son frère Jacob faire une bonne soupe aux lentilles, puis il dit « J'ai faim, donne-moi à manger ». Et regardez l'autre, qui connaît un peu le caractère léger d'Ésaü pour les choses de Dieu, qui dit « Donne-moi ton droit d'aînesse, vends-moi ». C'est impensable, quand vous réfléchissez, un marchandage pareil est impensable. Parce que qui vendrait son droit d'aînesse pour un plat de lentilles? Mais ça montre tout simplement combien, déjà dans le cœur d'Ésaü, et Jacob le savait, combien déjà dans la mentalité, dans la structure mentale d'Ésaü, le droit d'aînesse, excusez-moi du terme, il s'en fichait comme d'un plat de lentilles. Et Ésaü, vous remarquerez d'ailleurs cela à la réflexion, Ésaü dit, à quoi ça me sert, un droit d'aînesse? Si je vais mourir. De faim, il ne mourrait pas de faim le pauvre, mais... Sans broncher, le cœur sec, il ne réalise même pas ce qu'il fait, il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Le fait même que ce garçon ait pu jouer son droit d'aînesse, dans lequel, spirituellement, il y avait toute la généalogie de la bénédiction de Dieu, le fait qu'il l'ait façonné d'une façon tellement légère montre que dans son cœur, au fond de lui-même, il était léger. Et que les choses qu'il avait entendues n'avaient eu aucun impact dans sa vie, que les bénédictions d'Abraham, il avait entendu parler de son père Isaac qui avait été offert en sacrifice sur le mont Morija. Il connaissait ces choses comme son frère. Il avait méprisé ça, laissé de côté. Un homme des champs, chasseur, chose spirituelle, il les méprisait. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, et le récit nous le montre, que plus tard, des années plus tard, quand il a voulu récupérer ça, ça a été trop tard. Et le texte nous dit que même avec larmes, avec des supplications, son père même, qu'il aimait parce que son père le préférait à Jacob, Son père n'a pas pu changer la bénédiction qu'il avait donnée à Jacob. Et il n'a pas pu changer ce qu'il avait dit pour Ésaü. C'est-à-dire que les paroles qui étaient sorties d'Isaac avaient été liées dans l'éternité parce que c'était les paroles du patriarche qui étaient concrétisées dans les cieux. À cette époque-là, et ce serait peut-être bien qu'on y revienne de temps en temps, le père, le patriarche, était le représentant, et ce qui sortait de sa bouche était des paroles de bénédiction, mais ça pouvait être aussi des paroles de malédiction, comme Noé, à un moment donné, qui maudit Canaan. Il y a là, si vous voulez, c'est scellé, c'est inscrit dans les cieux. Et malgré ses pleurs, malgré ses larmes, Ésaïe n'a plus pu récupérer quelque chose. Vous savez, en tant que pasteur, J'ai vu des jeunes qu'on a mis dans le ministère. Il y a plusieurs jeunes qui sont en mission. À 27 ans, 28 ans, ils sont responsables de 50-60 églises. Moi, je n'ai pas autant en francs. Parce que l'œuvre de Dieu. Mais je veux dire quelque chose. J'en ai certains, ils étaient catholiques, traditionnels, mais dans leur séminaire catholique, gosses au lycée catholique, dans l'internat, eh bien, ils avaient manifesté dans leur chambre, parce qu'ils avaient appris la prière, parce qu'il y a dans l'innocence d'un cœur d'enfant, il y a des choses étonnantes qui se passent. Dieu, ils avaient parlé à Dieu, et ils s'étaient consacrés dans un séminaire catholique à l'école, ils avaient donné leur vie à Dieu en lui disant qu'ils voulaient le servir. À l'âge de 7-8 ans. J'ai ma femme, elle s'est convertie à l'âge de 5 ans. Et il y a des choses qui se passent dans le cœur d'un enfant. Souvent on dit, mais comment ça se fait les enfants, comment ça se fait avec les jeunes, etc. Mais énormément de choses se décident dans le cœur d'un enfant très jeune. Un enfant entend à un moment donné, à son niveau, selon sa sensibilité, selon ses degrés, selon aussi l'appel de Dieu, ou selon les propositions de Dieu, mais un enfant, et j'aimerais aller plus loin, vous et moi, à l'âge de 4, 5, 6, 7 ou 8 ans, d'une façon ou d'une autre, vous avez entendu. Vous avez eu la possibilité, vous avez fait des choix. Ça peut être dans une religion chrétienne traditionnelle, ça peut être dans le catholicisme, ça peut être dans le protestantisme, ça peut être dans d'autres choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Mais je sais que Dieu a parlé. Et on se demande pourquoi parfois dans une même famille où il y a plusieurs enfants, on voit certains qui marchent avec Dieu, on voit d'autres qui méprisent. Alors on attaque les parents, c'est pas toujours les parents, il y a le même environnement, rappelez-vous. Caïn et Abel, ils ont eu les mêmes parents, le même environnement. La même chose, et pourtant l'un a détruit, tandis que l'autre a offert le sang de l'innocent. Il y a des choix qui se font dans le cœur, au moment peut-être où on s'y attend le moins. Et j'aimerais dire, c'est à ce moment-là qu'on peut jouer déjà, très gosse, les bénédictions futures de Dieu. Je me rappelle, Dieu m'avait parlé, j'étais tout gosse, j'avais un frère un peu semblable, lui il s'occupait, j'étais un fonceur, et tout gosse, je me rappelle un jour, je m'étais réveillé, c'était 2h du matin, j'avais 7 ans. Je me rendais compte que j'étais en train de prier pour mon frère aîné. Prier pour lui. J'avais eu comme une sorte de vision, un songe dans la nuit, où je le voyais en train de se noyer. Et je priais Dieu pour qu'il le sauve. Et je voyais mon frère qui pleurait. Et moi, je priais. Ce frère n'est toujours pas converti. Il est croyant déiste. Tradition protestante, mais son argent, c'est son Dieu, quoi. Mais il sait, le témoignage est là, il faut que Dieu fasse quelque chose. Mais il sait. À l'âge de 7 ans, j'avais offert ma vie au Seigneur. Je ne comprenais pas ce que c'était l'appel, je ne comprenais pas ce que c'était... J'étais simplement placé à l'âge de 7 ans, en tant que gosse, à ma lumière, j'étais placé devant un choix. À l'âge de 13 ans, je me suis perdu dans la neige, station de ski, en pleine tempête de neige. On m'a ramassé à moitié mort, pleine montagne. Mais avant d'aller de m'endormir un peu du sommeil, de la neige, vous savez, hein, au fond de mon cœur, Dieu m'avait parlé. C'était pas des révélations extraordinaires. Je savais que je ne pouvais pas mourir. J'étais perdu là, la nuit tombait, j'étais perdu, personne ne pouvait me trouver. Je ne savais que je ne pouvais pas mourir. Parce que dans mon cœur, à ce moment-là, j'avais dit, Seigneur, je te servirai plus tard. Je n'étais pas évangélique, je n'étais pas pentecôtiste, je n'étais rien du tout. Et on m'a ramassé, un guide de montagne s'est détourné, c'est Dieu qui a amené ça. Et puis il a entendu mes hurlements, il m'a ramassé à moitié mort. Et c'est à ce moment-là même que Dieu m'a dit que je le servirais. Tout gosse. À l'âge de 15 ans, alors que j'étais rebelle, voulais pas de Dieu, dans une réunion où mes parents m'avaient obligé d'aller, eh bien, j'avais su, il y avait des prédicateurs, ça se passe à Nice, il y avait des prédicateurs. Tout à coup, il y a eu comme une sorte d'éclaircie. J'ai su qu'un jour, je serais comme ces prédicateurs sur une estrade, en train de prêcher l'Évangile. Et pourtant, j'en voulais pas. Mais tout s'était joué à l'âge de 6-7 ans. Il y a eu la patience de Dieu. J'ai fait des choses impensables. Hein. Quand je pense à la patience de Dieu, à mon égard, c'est incroyable. Et lorsque je me suis converti à 23 ans, à me dire, mais chose étonnante, pourquoi est-ce que Dieu a tellement fait ça? Je crois que c'était dû aussi, parce qu'à l'âge tout petit, au moment où pour la première fois, à mon niveau, j'ai entendu la voix de Dieu, je n'ai pas méprisé ces choses. Vous faites un choix, je fais un choix. Pas forcément à l'âge adulte. Ça vient tout petit, tout petit, tout petit. Et pour Ésaü, ça s'est fait comme ça. Ce garçon-là a été, en tant qu'adulte, amené à mépriser quelque chose parce que, dans son enfance déjà, il avait mis ces choses de côté. Vous savez, vous prenez un autre exemple. Nous avons les deux fils d'Aaron. Vous avez entendu parler d'eux, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Leur père est établi souverain sacrificateur sur le peuple d'Israël. Dieu, à un moment donné, se manifeste au moment de la consécration, le feu de Dieu descend sur l'Holocauste. Et on voit donc qu'il y avait un feu qui a été préparé, des brasiers qui ont été préparés. Et quand il y a cette manifestation surnaturelle, là devant Moïse, devant tout le peuple, tout le monde est ébranlé par la chose et tout le monde est saisi. À ce moment-là, les deux fils qui étaient également dans le sacerdoce avec leurs deux autres frères, hein, les deux fils foncent, on ne leur a rien demandé, ils prennent un brasier à côté qui n'était pas prévu, ils le prennent, ils mettent, et ils allument un feu et ils l'apportent devant Dieu. Et regardez ça, au même moment, le feu de Dieu sort et les tue et les rôtit vifs, meurent instantanément. Incroyable. Si vous prenez la logique humaine de nos émotions, de notre humanisme évangélique où dit Dieu est bon, il ne permettra jamais des trucs comme ça, revenons, laissons de côté tout ce qu'on nous a mis de côté, laissons tout ce qu'on essaye de nous ingurgiter qui est contraire à la nature de Dieu. Reprenez Dieu comme il est, vraiment. Pas tel qu'on nous l'a appris, prenez-le comme il est dans la Bible. La Bible nous dit, ma Bible à moi me dit que Dieu peut être un feu dévorant. On ne joue pas avec Dieu. Tu peux y laisser ta peau. Et ces deux fils, c'était sincère chez eux. Ils ont voulu faire quelque chose pour Dieu. Ils lui ont amené du feu. Ils en sont morts. Mais essayez maintenant d'étudier un petit peu, devant deux minutes, comment ça se fait que Dieu a pu frapper ces deux jeunes. D'ailleurs, Aaron, vous savez, quand il a vu ses deux enfants, ses deux fils, mourir comme ça, vous savez, dans son cœur, ça n'a pas dû rigoler. Il va se dire, mais comment t'as fait ça? Mais ils étaient en train de t'offrir un feu. C'était dans le service de Dieu qu'ils sont morts. C'était pas en allant dans une surprise partie, c'est en amenant un feu pour glorifier Dieu. Ils en sont morts. Le feu qu'ils ont amené les a tués. Pourquoi? Il y avait deux autres frères qui sont devenus sacrificateurs après Aaron, qui eux ne l'ont pas fait. Les cœurs de l'un et le cœur de l'autre étaient différents. Pourquoi? Parce que dans leurs enfants, dans notre enfant, la nature de la plante a grandi. Il y a eu des choix intérieurs avant d'avoir une expression extérieure. Mais ce qui est important là-dedans, dans l'expérience de ces deux gars-là, de ces deux jeunes-là, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des choses saintes, que si on les touche, on peut en mourir. Ils n'ont pas compris. Ils pensaient bien faire. Mais ils n'avaient pas le sens du sacré. Ils ont fait quelque chose qu'on ne leur avait pas demandé. Excusez-moi, mais je dirais, ils en ont rajouté. Et quand vous prenez dans l'œuvre de Dieu tout le monde qui en rajoute, vous pouvez comprendre un petit peu les jugements qui vont descendre sur certains chrétiens, sur certains serviteurs de Dieu dans l'avenir. Quand tu en rajoutes, tu en meurs. C'est pas j'en rajoute puis Dieu est bon. Non, tu en rajoutes, tu en mourras, tôt ou tard. Il y a des moments de Dieu. Nous pensons que saisir les moments de Dieu, c'est que pour la bénédiction. Mais attention, il y a des moments de Dieu où tu joues ta vie. Fils étranger, donc les deux Aaron, le feu étranger, ils en sont morts. La notion profonde de la sainteté de ne pas ranger. Je ne veux pas insister, vous avez également un autre souverain sacrificateur, il s'appelait Élie. Il a des fils qu'il a établis, Hein. Il a mis dans la magistrature, dans la sacrificature, et puis ces fils-là profitent de leur fonction de prêtre pour, à la fois pour dominer sur les gens, et en même temps pour récupérer ce qui les arrange. Ils prennent de la nourriture dans les pots de sacrifice, couchent avec les femmes qui viennent dans l'adoration, enfin, en un mot, prennent toutes sortes de choses, et à un moment donné, on voit que les choses tournent au vinaigre. Ils pensent que personne ne dit rien, ils pensent que personne ne voit rien. À un moment donné, un prophète vient et il parle au père, il dit « Comment, tu honores tes fils plus que moi ?» Le père, qui aurait dû sévir, qui aurait dû préserver la pureté du sacerdoce en Israël, parce qu'il y a une couverture spirituelle, quand les chefs sont contaminés, la malédiction rentre dans le peuple, parce que les chefs sont comme une protection sur le peuple. Et si le chef ne sont plus la protection, alors le peuple en souffre des conséquences. Les deux fils, et après il y a les fils sont là, le prophète vient, Élie craque devant ses enfants, les enfants ne changent absolument pas, et à un moment donné, c'est la condamnation. Dieu dit qu'il va les faire mourir tous ensemble, le même jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a eu le mépris des choses saintes. Le mépris des choses saintes. Ces gars-là se permettaient de manger, de choisir ce qu'ils voulaient dans les offrandes apportées devant le Seigneur. Ils en sont morts. Pourtant, leur père aimait Dieu. On ne peut pas reprocher au père de ne pas aimer Dieu. Regardez, quand la mère de Samuel n'avait pas pu avoir d'enfant, qu'elle priait, après il lui a dit, bon, il a d'abord cru qu'elle était ivre, mais après il lui a dit que l'Éternel te bénisse, elle a eu un enfant. Il aimait Dieu. Mais tel père, ce n'est pas tel fils. Mais là encore, ces jeunes, qui pourtant connaissaient, leur père était, j'allais dire, leur père était pasteur. Ces jeunes ont grandi avec une insensibilité qui progressivement se développait, méprisés, et à un moment donné, ils en sont morts. Je continue encore. Au même moment où ses fils, dans le sacerdoce, méprisent les oracles de Dieu, méprisent la sainteté de Dieu, en un mot, ils méprisent Dieu, on s'en fiche d'eux. On n'y croit pas, je suis convaincu qu'ils sont arrivés à un degré où ils sont devenus incrédules. Et finalement, ils ont joué aux prêtres. Quand il y a eu la bataille contre les Philistins, quand ils ont amené l'arche de là, ils ont joué, ils pensaient que les autres ne diraient rien, ils pensaient que les autres ne verraient rien. Ils ont fait ça comme un spectacle qui les a tués en plein champ de bataille. Mais au même moment, vous avez le petit Samuel, qui lui était dans le temple, qui couchait dans le temple, dit la parole de Dieu, qui lui grandissait, qui à un moment donné a eu la révélation de Dieu. Rappelez-vous le texte, il dit Samuel, Samuel, et Dieu, Samuel qui n'était pas habitué à la voix de Dieu, a cru que c'était Élie, il a couru, tu m'appelles. Et lui a dit, non, maintenant, quand tu entendras, tu diras, mais voici Seigneur, ton serviteur écoute. Il nous a dit de Samuel qu'il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Vous avez des jeunes qui méprisent, qui sont pleins dans le ministère, et qui méprisent les choses de Dieu parce qu'ils sont blindés maintenant. Qui n'écoutent pas, même quand le prophète vient, ils n'écoutent pas. Et vous avez un tout jeune, un adolescent, qui lui écoute. Ça prend des années. Il ne laisse tomber à terre aucune des paroles. Mais à l'heure de Dieu, il y a toujours pour vous et pour moi une heure de Dieu. Les premiers sont morts, le deuxième est devenu le prophète pour toute la nation. Quelle différence! Et tout ça, ça s'est joué dans les cœurs, peut-être pendant des années. Et parfois, à certains moments de notre vie, vous et moi, nous jouons notre avenir. C'est important que vous puissiez comprendre ça. C'est important. Saül, vous connaissez le roi Saül, que Samuel a oint pour être le roi, le premier roi sur Israël. Ce garçon-là a le cœur changé, hein. Il faut quand même lire ce que dit la Bible, il a eu le cœur changé, ça veut dire qu'il y a eu une conversion chez lui. Hein. Eh bien, ce gars-là, méprisé d'abord par tout le monde, remporte les premières batailles, formidable, tout va bien, mais lui qui n'avait droit à rien du tout, était, hein, comme il le dira lui-même, je suis une petite famille en Israël, est élevé par le choix de Dieu comme chef, comme roi sur le peuple, ce garçon-là, à un moment donné, l'orgueil va lui monter à la tête. Il va d'ailleurs très vite, vous allez le voir, il commence à se construire une statue, alors que, hein, il n'avait rien d'extraordinaire pour ça, c'est un choix de Dieu. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, coincé, Alors qu'il attend Samuel, tu lui as dit, tu vas m'attendre. Il va se permettre d'offrir le sacrifice, qui est ce sacrifice fait par le prêtre, que seul Samuel pouvait faire. Un roi n'avait pas le droit de toucher à l'œuvre de la sacrificature. Il n'avait pas le droit, Dieu lui avait interdit. Ce garçon-là, Saül, j'allais dire, dans tout son choix de Dieu, Dieu l'avait choisi, va se permettre de faire quelque chose, de sortir de ses limites et de faire quelque chose qui ne lui appartenait absolument pas. En un mot, je change ça dans le langage moderne, il va prendre une fonction, il va prendre un titre qui n'était pas le sien. Il va en mourir. Il va en mourir. À peine il l'a fait, à peine, c'est impensable. Comment Dieu aurait pu permettre que Samuel vienne 2 minutes plus tôt? Il l'aurait pas fait. Mais Dieu a permis que Samuel vienne 2 minutes plus tard pour que ce qui était dans le fond des entrailles de Saül vienne à la surface. Et c'est venu. Au moment où c'est venu, paf, Samuel vient. Pourquoi tu as fait ça? Désormais, Dieu dirige, déchire la royauté de dessus toi. Et c'est quelque chose d'étonnant. Saül a continué à régner encore pendant 20 années. 20 années. Il en a fait baver à David, il en a fait baver à tout le monde. Il était rejeté, mais il continuait encore à régner pendant 20 années. Et je suis convaincu que dans l'œuvre de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui sont déjà rejetés, qui continuent à fonctionner pour toutes sortes de raisons. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des choix, ils se sont permis des choses. Ils ont pris des fonctions, ils ont pris des titres, ou ils ont pris des dispositions, ils ont fait des actions pour lesquelles il n'y a plus aucun retour possible. On ne se moque pas de Dieu. Saül, je prends un autre. Vous savez, Samuel, quand il va arriver, Samuel va lui dire une parole très claire qui peut être, si vous voulez, pour vous et pour moi, un garde-fou qui va nous éviter de tomber dans les mêmes problèmes. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu beaucoup trop grand, mon ami. Tu as gonflé, tes réussites t'ont gonflé. Mais tout ce que tu as, c'est parce que Dieu te l'a donné. Tu es roi, tu te prends pour qui? Alors que c'était un choix de Dieu. Lorsque tu étais petit à tes propres yeux. Et là, vous avez une première clé par laquelle vous pouvez éviter de vous détruire. Déjà sur cette terre et dans l'éternité, c'est qu'il nous faut absolument veiller à rester petit à nos propres yeux. Pas seulement aux yeux des autres, mais d'abord à tes propres yeux. Parce que si tu te gonfles, tu en mourras. Ça ne sera pas visible tout de suite. Ça prendra peut-être des années. C'est comme une plante qui est coupée, elle prend du temps pour sécher. Mais elle meurt. La mort est dans le pot. Et si à un moment donné tu perds cette vision de ta petitesse, de ta fragilité, tu en meurs. Et tu pourras continuer à flamboyer encore pendant des années. Mais quand tu es mort, tu es mort. Ah oui. C'est un message qui est assez dur. Mais je peux vous le garantir, il est vrai. Lorsque tu étais petit, à tes propres yeux, à tes yeux. Ça sous-entend savoir rester dans nos limites. Savoir rester dans nos limites, et j'y dirais également, et c'est très important, grandir avec selon le rythme de Dieu et non pas selon l'esprit de notre société. Je m'explique. Si je prends une plante, imaginez que parmi nous, il y a un pot de terre avec une plante plantée. J'ai beau tirer sur la tige, elle ne va pas pousser pour vite. Il y a un rythme inhérent à la nature de la plante, un rythme de croissance. Or, nous vivons une société où on va très vite. Appuie sur le bouton, le gobelet instantané du café. Marchons à l'heure de l'ordinateur, à l'heure des jets, à l'heure de tous les avions supersoniques. Nous avons tout en accéléré, nous sommes éperdument pressés. Le temps, c'est de l'argent. C'est rentré en nous, c'est rentré en regarder les gens vivre. Nous sommes malades d'ailleurs par ce truc. Quand vous allez dans les pays étrangers du tiers-monde où ils ont tout le temps, vous voyez la différence d'une façon énorme. On fonce. Et plus on fonce, plus on a manque de temps. Parce que chaque fois qu'on a du temps, on l'utilise pour nous quelque chose de nouveau. On est lié par l'accélération de notre société. Mais je voudrais vous dire quelque chose avec Dieu, vous avez beau courir. Dieu a son rythme à lui. Et si vous précipitez le rythme de Dieu, vous risquez d'en mourir. Je ne dis pas le rythme de Dieu, si vous précipitez votre rythme, même dans les choses de Dieu, vous risquez d'en mourir. Parce que votre croissance sera factice, elle sera fausse. Ce sera une croissance humaine qui n'a rien à voir avec la vie intérieure qui, elle, pousse selon un rythme. Et si tu es grand avec ton propre rythme, c'est que ta grandeur est humaine. À un moment donné, tu payes les pots cassés parce que la réalité extérieure ne correspond pas à ce que tu es au fond de toi-même. Vous savez, c'était Butler, un prophète, je ne sais pas, pour certains, vous avez dû lire ses livres. Un jour, il a dit à Dieu, « Qu'est-ce que tu es lent, Seigneur ?» Il m'est arrivé de penser ça, c'est vrai que Dieu est lent, apparemment. Vous savez ce que Dieu lui a répondu ? Je suis peut-être lent à tes propres yeux, mais je me trompe jamais. Mais oui. Alors, je dirais donc un rythme de croissance en Dieu. Et ça, c'est important. Ne pas dépasser nos limites. Le psalmiste disait, je ne m'occupe pas de choses trop élevées. Moi, je suis parfois étonné. Écoutez, ça fait des années de conversion. Tourner à droite, à gauche, des problèmes, j'en ai vu. Je suis parfois étonné de voir l'assurance de certains. Puis étonné. Je dis, les gens, c'est des inconscients. Vous savez, moi, il me dit surtout, Seigneur, garde-moi. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Qu'est-ce que nous sommes? Rien du tout. Si Dieu retire sa main, on est fichu, on va tomber dans le premier péché venu. On n'est rien. Je vois. Vous savez, il y a parfois toute une génération, là, on est sûr, on est les, c'est-à-dire les boy scouts, les oraux de l'Évangile. Les oraux de l'Évangile. Conquérir. Ah. Vous savez, quand vous regardez un petit peu les... Je crois que ce que nous avons besoin, ce que le monde chrétien manque actuellement, c'est de profondeur. Ça manque. Vous savez, au nom de Jésus, pam, 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 pam. C'est facile. Mais quand tu as une maladie qui ronge ton corps, tu sais que tu vas mourir, c'est quoi? Ah, Dieu est bon, Dieu va me garder, on chante. Canaan, pour moi, Canaan, mon amour est ardent. Canaan, je vais conquérir Canaan. Mais quand tu as 20, 30 personnes en mission, qu'il n'y a plus d'argent pour leur envoyer le salaire, tu fais quoi? Canaan, ardent. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Quand tu es malade, tout de suite, qu'est-ce que c'est ta foi? Tout de suite le médecin, tout de suite les trucs, tout de suite ça va. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais je dis la légèreté. Frères et sœurs, excusez-moi du terme, mais on est vraiment léger. D'ailleurs, je le crois sincèrement, il y a certains bons cantiques nouveaux qui sont vraiment bien. Mais je dis combien de cantiques sont superficiels. Ce n'est pas une histoire de rythme, je parle de superficiel. Vous savez, chanter pendant trois quarts d'heure, Dieu est bon, c'est facile. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. C'est tout ça. Mais il y a certains vieux cantiques où ce sont les tripes de ceux qui les ont invités, inventés, ou qui les ont créés, qui sortent de là. C'est leur vie qui a été exprimée là-dedans. Ce n'est pas de l'inspiration comme ça, de mots qui sont donnés. C'est leur vie. C'est autre chose. Attention, rassurez-vous, je ne suis pas pour revenir à toute la musicologie qu'il y a 20 ou 30 ans. Je crois qu'il y a des très bons cantiques nouveaux. Je dis simplement, il y a profondeur et profondeur. Il y a superficialité et réalité. Et il faut y revenir. Parce que tout arbre, a dit Jésus, que mon Père n'a pas planté, sera déraciné. Puis il y a eu des scandales qu'on a réussi à couvrir. Et des échecs. Des choses qui, finalement, on n'a pas toujours pu réussir à couvrir, qui ont éclaté au public. Pourquoi? Balance de Dieu, tu as été trouvé léger. C'est important. C'est important. Lorsque tu étais petit à tes yeux, ne pas prendre des titres qui ne sont pas les nôtres. D'ailleurs, ne prenez jamais de titres. Les galons, ça, c'est difficile à porter. Vous savez, je crois, pas que ça dit hier, on discutait avec des étudiants, je crois au ministère et j'ai à cœur vraiment la complémentarité des ministères. Mais je peux vous dire, je ne crois pas aux titres. Parce que dès qu'on donne des titres à des gens, ils deviennent invivables. Invivables! Pourquoi des titres? Pourquoi des grades? Que dit la Bible? Que dit ma Bible à moi? Ma Bible française, je crois que c'est la même que celle de la Suisse, qui dit que celui le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, voilà notre titre. Esclaves les uns des autres. Mais, manifeste alors la vie, oui. Oui, sers l'autre dans l'esprit apostolique. Oui, sers l'autre dans l'esprit prophétique. Oui, sers l'autre dans l'esprit d'évangéliste. Oui, sers l'autre dans l'esprit d'enseignant. Oui, sers. Ne prends pas de titre, mais manifeste la vie que tu as. Manifeste la vie du Christ. Que le Christ apôtre sorte au travers de toi. Que le Christ évangéliste sorte au travers de toi. Que le Christ prophète se manifeste au travers de toi. Que le Christ pasteur se manifeste au travers de toi. Que le Christ enseignant coule au travers de toi si c'est ta vocation. Pas titre, la vie. C'est tout ce qu'on veut. Les titres, on s'en fiche, pas que ça devient pénible. Ce qui compte, c'est pas ton ministère, on s'en fiche de ton ministère. Ce qui compte, c'est Christ en toi. Là qu'on a besoin. Vous savez, moi aussi, je suis parfois ce que nous sommes en Christ. Hein, vous connaissez ça. Je suis Christ, je suis vainqueur, point, gagnant, battant. L'autorité en Christ. Ah, j'y crois, toutes ces choses-là. Hein. Je les ai enseignées, j'y crois, j'essaie de m'en sortir. Mais vous savez, la plus grande chose, ce n'est pas ce que nous sommes en Christ, mais ce que Christ est en nous. Christ en vous, on l'a chanté. Yeah. Christ en nous. Ça qui compte. Lorsque tu étais petit, à tes propres yeux. Alors, hein, nos limites. Et puis, si vous voulez, hein, tout le monde parle de l'amour, tout le monde parle du corps de Christ, tout le monde parle de la vocation céleste, tout le monde parle de l'unité. C'est incroyable tout ce qu'on prêche. Mais c'est incroyable le nombre de problèmes qu'il y a dans le corps de Christ. On en parle, on est incapable de le vivre. C'est comme si on était là, comme une nostalgie, on parle de choses qu'on ne vit pas et qu'on a profondément, quand on est soi-même concerné, on n'a pas du tout envie, parce que ça nous engage drôlement. Superficialité. Mais je voudrais crier ça ce matin, cette superficialité peut me tuer. Et puis, il y a la compétition. Il faut quand même être réaliste. Il faut quand même être réaliste. Il y a la compétition. Vous savez, dans nos églises, on structure. Hein, tout le monde a vu Yung Gisho, alors maintenant on va faire comme lui. Je taquine un peu. Hein. Mais structuré, responsable de ceci, responsable de ça, badge de ceci, badge de ça, service d'accueil, service de ceci, depuis la truc, la grosse échelle, hein, tac, 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 nous avons tous notre organigramme dans nos bureaux, tout. Est-ce que vous savez peut-être pas toujours, qu'est-ce qu'il y a parfois comme compétition? Parce que celui-là, il a tel badge, mais il aimerait bien le badge de l'autre. Parce qu'il estime que c'est lui qui devrait porter le badge de l'autre. Vous savez, ça, c'est pas ça, on ne le dira pas dans les conventions, dans les séminaires, mais c'est notre problème à vous et à moi dans nos églises. La compétition dans les chrétiens, dans le simple croyant, parce que c'est dans notre nature. Et vous retrouvez la même chose dans une autre échelle, au milieu des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. C'est pareil, nous avons une nature de péché. Vous savez, au baptême, là, hein, Dieu a voulu vraiment nous mettre dans le trou, mais malheureusement, comme a dit Luther, hein, le vieil homme, il a été englouti, mais il a été immergé, mais il nage drôlement bien. Ah oui, qu'il nage bien. Faut être honnête, faut arrêter de se gargariser. Faut être réaliste. Pas avec des slogans évangéliques, vous allez vivre votre vie chrétienne, vous allez en mourir. Non, faut être vrai. Beaucoup de problèmes. Clé, reste petit. Cherche pas à prendre quelque chose. Vis ta vie, dans l'humilité. Tu ne compares pas aux autres. Compare-toi à Jésus, ça te gardera petit, parce que quand vous regardez, vous dégonflez. C'est important. Alors Saül, il en est mort. 20 ans après, mais il en est mort. Regardez un autre. Regardez la différence. Bon, je prends, puisqu'on est à Saül, prenez maintenant David. La relation entre David et Saül. David sait qu'il est loin, puisqu'il n'a rien cherché, d'ailleurs, au milieu de ses frères. On l'a laissé au champ, en train de garder les moutons. Et c'est ses frères qui sont là avec Samuel au moment de l'onction. Et puis Dieu dit non, hein, j'ai pas pris Eliab, l'homme regarde aux apparences, Dieu regarde au cœur, et il fait chercher David. Et David est loin, et il nous a dit au milieu de ses frères. Vous savez, là, quand on lit dans la Bible, c'est sympa. Mais essayez maintenant d'imaginer que vous êtes avec vos frères et sœurs, on vous rassemble à la maison, toute la famille est heureuse, il y a l'aîné, il y a le second, le troisième, il y a le tonton, il y a la tata, hein, et le neveu, la nièce, tout le monde est là. Et on a chacun nos affinités, chacun nos préférences. Et puis voilà que le prophète vient et il dit, bon, je vais nommer le roi sur Israël. Vous êtes une petite famille de la Suisse, perdue au fin fond de la Suisse romande, hein, et on va dire que vous allez être le président de la Suisse. Et voilà que tous les aînés les plus costauds, ceux qui ont fait les plus grandes études dans la famille, sont là, c'est normal. Et voilà qu'on va prendre le petit gamin du coin, le petit gamin qui a encore du poil à récupérer au menton, et devant tout le monde, on le oint. Vous savez, c'est facilement lu. Mais essayez d'imaginer ce qui s'est passé dans le cœur de tous ceux qui étaient là. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais on est tous comme ça. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas leurrer les gens. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. D'ailleurs, Eliab l'aîné, vous savez, ça a dû ruminer. Plus tard, quand il y a l'histoire de Goliath, il a dit à son frère, mais t'es venu pourquoi? Pour faire le malin? Il n'avait pas digéré le coup. Comme ça, la vie. Comme ça. On est des fichus orgueilleux. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on est tellement bien. À nos propres yeux. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pendant 20 années après que David a été oint, il nous a dit que l'Esprit de Dieu quitta Saül. Il vint sur David. Hein. Mais pendant 20 ans encore, Saül régna et David fut pourchassé comme un lapin. Il avait l'onction et pourtant pourchassé. L'autre n'avait pas l'onction et pourtant c'était le chasseur. 20 ans. Vous savez, Dieu m'a donné des prophéties il y a 25 ans. Moi, je les vois vivre aujourd'hui. Pourchassé comme un lapin. Mais ce qui est intéressant, à un moment donné, essayez d'imaginer, David n'avait pas, n'était pas le super spi, baptisé tous les dons, il ne connaissait pas Ibeto avec l'école biblique, la formation, ni toutes les cassettes audio qui ont été enregistrées dans tous vos séminaires. Il ne connaissait pas ça, David. À un moment donné, dans une grotte où il s'est caché, Dieu permet que Saül vienne là se reposer, à ses pieds, et il est avec ses soldats. Et un des soldats lui dit, voilà, Dieu te l'a finalement livré entre tes mains, tu vois, t'as plus de casser la tête, c'est l'heure de Dieu. C'est l'heure de Dieu. Laisse-moi y planter le javelot, puis on n'en parle plus. C'est le moment, saisis le moment de Dieu, voilà ce qu'a dit le dirigeant. Saisis le moment de Dieu. Il y a des moments de Dieu, si tu les saisis mal, ça te tue. Et David m'a dit que Dieu me garde. Je ne toucherai pas loin. C'est Dieu qui l'a loin, qui meurt. Que Dieu le fasse mourir, moi je ne veux pas porter ça. Qu'il le fasse mourir dans un champ de bataille, qu'il fasse mourir de maladie. Que Dieu le fasse, moi je ne toucherai pas. Je ne touche pas parce qu'il a été loin, l'onction était sur lui, je ne touche pas. Une autre fois, rebelote, une autre fois, encore une fois. Alors David coupe le pan du vêtement, son cœur tremble. Au fond de lui, l'esprit le convainc qu'il est en train de faire quelque chose, il touche. Il touche à quelqu'un qui a rejeté Dieu, écoutez bien ça. Il touche à quelqu'un qui a rejeté Dieu. Il touche à quelqu'un qui veut le tuer. Il touche à quelqu'un que, apparemment, Dieu lui livre entre les mains. Il refuse. Ça lui a sauvé la vie. Et ça l'a sauvé pour l'avenir. Parce qu'il a fait miséricorde, plus tard, il a pu trouver miséricorde, sinon il n'aurait jamais eu. Ne touchez pas mes oints. Écoutez, c'est quelque chose d'incroyable, mais vivons une société. On se permet de toucher à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Et même dans nos milieux évangéliques, on est devenu spécialiste des lettres circulaires. On appelle ça des lettres ouvertes. Moi, je peur, je vous le dis honnêtement, j'ai peur. Parce que ces choses se payent. C'est pas de la vengeance. C'est la vérité de Dieu. Tu touches un fil électrique, ou tu as de la lumière, ou tu as un choc cardiaque et tu meurs. La même puissance peut te vivifier, la même puissance peut te tuer. Ça, on l'oublie. On voit que la puissance guérissante, est-ce que vous voyez la puissance tuante de Dieu? Elle joue. Vous savez, parfois, dans certaines réunions, on voit parfois, Dieu l'a vu, il y a parfois des gens qui viennent pour jouer. Un jour, j'étais dans une réunion, c'était en Afrique, là. À un moment donné, j'étais conduit, je dis, maintenant, attention. Si vous venez à l'imposition des mains pour jouer, il y en a d'entre vous qui vont prendre un choc. Parce qu'il y avait de la magie, de sorcellerie, et vu ça, il y a des gens qui pratiquent et qui viennent en même temps à l'imposition des mains. Vous savez, il y a des gens qui cherchent sur tous les tableaux. Je leur dis, attention, maintenant c'est le moment de la puissance. Tu peux être tué par ça. Ouais, moi j'ai vu parfois dans des réunions, moment, vous avez entendu, vous avez des fuiles de gens qui viennent, des fuiles de malades, et ça. Vous n'avez jamais remarqué, des fois il y a quelque chose qui se passe. Au moment où on vient, on impose les mains, mais il y a des gens qui sont littéralement terrassés par la puissance. Tu peux en mourir. Je ne touchais pas à loin du Seigneur. Mais cette chose-là, ça s'est créé dans David pendant des années. David a réagi comme ça parce que pendant des années, il a appris le respect. Il a appris. Et dans notre société, on ne respecte plus rien. Excusez-moi du terme, mais c'est une société permissive. On ne sait plus ce que c'est que d'enseigner la discipline et la maîtrise de soi aux enfants. Nos enfants devenus adolescents sont incapables maintenant de se maîtriser. Et ce qui est tragique, ne se maîtrisant plus eux-mêmes, ils vont à la mort parce qu'ils sont incapables ensuite de maîtriser certaines pulsions qui les condamnent. Et on se demande pourquoi bien des jeunes ne s'arrivent pas à se convertir. Des enfants de chrétiens, des enfants de pasteurs. Il faut le voir ça. Pourtant, le même évangile, le même témoignage, les mêmes prédications pendant des années. Ça se passe là-dedans. Ça se passe là-dedans. Ils ont méprisé la voix de Dieu au moment où elle a parlé. savez, la parole de Dieu, je dis ça vite encore, obéissez à vos conducteurs, ayez de la déférence pour eux. Vous savez, je vais dire quelque chose. Nous sommes protestants. On proteste toujours, hein. Mais il y a quelque chose, par réaction peut-être au clergé catholique, nous savons qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus le clergé et puis le pauvre petit peuple matraqué par les pauvres petits pasteurs, les méchants petits pasteurs. Mais je veux dire quelque chose que je crois de tout mon cœur, je crois que nous sommes devenus beaucoup trop démocratiques. Dans le sens que le respect, vous savez, je crois qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne vivent pas leur vocation comme il le faudrait, je crois qu'il y a des gens qui se servent, je crois qu'il y a des gens qui dominent, je crois qu'il y a des mauvais bergers comme il y en a toujours eu, c'est sûr. Mais ce n'est pas pour autant que la parole de Dieu, elle est faussée. Et je crois que le respect qui s'est perdu envers les parents, envers les aînés, envers les cheveux blancs, même qu'il y ait des fautes, qu'il y ait des faiblesses, c'est parce que c'est des cheveux blancs. Le même irrespect s'est installé dans le corps de Christ. Des fautes, qu'il y ait des faiblesses, c'est parce que c'est des cheveux blancs. Le même irrespect s'est installé dans le corps de Christ. Envers les serviteurs de Dieu, les responsables. C'est très dur maintenant d'être responsable d'une église ou d'une œuvre de Dieu. C'est mon copain, le pasteur, c'est mon copain. On a été habitué à l'école. Avant, les professeurs, c'était sur l'estrade. Les élèves étaient assis. Maintenant, parce qu'il faut encourager l'unité, le truc. Alors maintenant, le prof est au milieu des élèves. Vous savez, je parle, pendant des années, j'étais dans l'enseignement. Hein. On a une relation horizontale, parce qu'on estime que la relation pyramidale, c'est vraiment écrasant. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque inconscient de respect qui s'est installé les uns les autres. Et il y a une perte d'autorité. Et un problème énorme, c'est que dans nos églises, on n'a jamais vu autant de rouspéteurs, on n'a jamais vu autant de gens qui râlent, on n'a jamais vu autant de gens désobéissants, on n'a jamais vu autant de gens individualistes, et on n'a jamais vu autant de divisions, malgré toute la connaissance évangélique qu'on a. Pourquoi ? C'est dans le cœur. Dans le cœur. Alors, moi, je ne milite pas pour le ministère que tout le monde baise la main, le chef, le big chef, le gros manager. Je ne prends pas du tout ça. Je crois qu'un vrai ministère, c'est le serviteur des autres. Nous sommes au service des autres. Mais je crois au respect. Je crois au respect de l'appel de Dieu. Je crois au respect des vocations données. Et si un gars, un tel est pasteur, si un autre tel est prophète, si un autre tel est enseignant, je crois qu'il faut respecter l'onction qui est sur lui. Et tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas responsable des jeunes, tout le monde n'est pas responsable des maisons, des groupes de maisons, tout le monde n'est pas responsable de la formation, tout le monde n'est pas responsable de l'école biblique, tout le monde n'est pas responsable de la cuisine, tout le monde n'est pas responsable du service de balayage, tout le monde n'est pas responsable du secrétariat, tout le monde, non. Chacun doit trouver sa fonction particulière dans le respect de l'onction qui est sur l'autre. Combien de chrétiens se tuent en touchant à l'onction de l'autre. Il entraîne des problèmes. On dit que Dieu n'a pas le même. Les guérisons, ça n'existe pas. La délivrance, ça n'existe pas. Ça va mal. Le corps de Christ n'est plus ce que d'avant. On a besoin d'un réveil. Mais le réveil, il ne vient pas comme ça. Vous savez comment il vient le réveil? Le réveil vient tout simplement par ma Bible. Ma Bible dit, réveille-toi. Le réveil, c'est moi qui le provoque dans ma vie. Le réveil dans l'église, c'est les chrétiens dans l'église qui le provoquent. Tu as prié pendant des années pour un réveil, il ne viendra jamais. Parce que c'est toi qui dois te réveiller, c'est moi qui dois me réveiller. C'est tout. Réveille-toi, toi qui dors. Et alors quoi? Alors Christ éclaira d'entre les morts. Nous prions pour des... Prier pour une visitation de Dieu, c'est autre chose. Mais prier pour le réveil, c'est faux. Parce que nous devons nous réveiller. Mes amis, combien nous avons démissionné, combien nous avons été légers, combien nous avons touché. Parfois étonné, vous savez. Et je dis la chose la plus tragique, c'est que je trouve que nous avons une génération qui est devenue insensible au respect. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour des jeunes pasteurs, j'ai peur pour des jeunes serviteurs de Dieu. J'ai peur, parce qu'ils sont drôlement légers, dans le respect. Et mais j'ai peur, si les jeunes pasteurs sont comme ça, c'est parce que les chrétiens, c'est parce que nous avons une génération comme ça. Ils sont légers, ils savent plus ce que c'est que le respect. Voyager, descendre à Bienne, d'ailleurs n'importe où, monter dans un trolley, ou je ne sais pas ce que vous avez comme voiture publique. Regardez comment les gens se comportent. Attention, je ne dis pas ça pour... Je suis en train de dire, il y a des choses de Dieu, si je les touche mal, j'y laisse ma peau. Et vous avez beau pleurer, lamenter, dire, Dieu n'est pas bon, Dieu est bon. Et si Dieu me sanctionne, c'est qu'il ne veut pas que je sois perdu pour toujours. Alors, obéissez à vos conducteurs, honore ton père et ta mère, écoutez bien ça, afin que tu prolonges tes jours et que tu sois heureux. Si vous rendez compte, honore ton père et ta mère afin que tu prolonges tes jours. Et des tonnes d'onctions d'huile ne rallongeront pas vos jours. 36 impositions des mains avec les super meilleurs prédicateurs suisses que vous pouvez avoir ne prolongera pas vos jours. Pourquoi? Parce que tu n'honores pas ton père, parce que tu n'as pas honoré ton père, parce que tu n'as pas honoré ta mère. Et dans ce terrain-là, je crois qu'on a parfois franchi des limites et nous portons des conséquences peut-être toute notre vie. Vous savez, le diable, il a réussi quelque chose de formidable. Il a réussi à rendre les enfants insensibles par rapport à leurs parents pour mieux les détruire. Parce qu'il les a entraînés dans une malédiction de Dieu pour les détruire. Rendez compte, il joue à tout tableau. Nous devons savoir ces choses-là. Honore ton père, même mon papa. Ma vieille, m'a dit un jour quelqu'un. Un jeune qui m'a dit ça un jour dans l'église, j'ai dit, je te pote les fesses si tu recommences à dire ça. Ma vieille. Sortez ça, ça c'est le tout cru du monde. Ma vieille, mon vieux. Chaque fois qu'il disait ça, il se liait une fois davantage. Et à un moment donné, lié, il meurt. Étouffé. Plus de vie. Honore ton père et ta mère afin que tu prolonges tes jours et que tu vives heureux. Le proverbe 23-22 dit, ne méprise pas ta mère devenue vieille. On pourrait en dire des choses là. On va dire, mais ma maman, pénible, elle a perdu la tête. Ben oui. Ben oui. Tu sais, avant que tu sois né, Dieu savait déjà ça. Hein. Tu apprends rien. Mais comment tu réagis? Facile de dire, je suis chrétien. Facile de chanter pour Canaan. Facile. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as une mère qui est pénible? Je ne dis pas celle que toi, tu trouves pénible. Je dis celle qui est pénible. Comment tu réagis? Qu'est-ce qui sort de toi quand on te presse? La démission? Ou honore ton père et ta mère, afin que tu prolonges tes jours et que tu vives heureux. Pensez pas que c'était de la vieille alliance, ça. Non, c'est la nature de Dieu. Il n'y a pas Dieu de loi d'ancienne alliance et Dieu qui a changé de costume, de cœur, avec nos dons d'organes maintenant. Avec la nouvelle alliance, Dieu a pris un nouveau cœur. Pas vrai, Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau. Il a le même caractère, le même tempérament, les mêmes réactions, les mêmes pensées. C'est seulement sa méthode avec nous qui change. Mais il est le même. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. Aucune. Donc quand Dieu dit qu'il te sanctionne, dans l'Ancien Testament, il te sanctionnera. Mais c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament qui te sanctionnera quand il a dit qu'il te sanctionnerait. Rien à faire, on ne peut pas éviter ça. La crainte de Dieu. Vous savez, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas la crainte. Vous savez, chez nous en France... Sinon, en France, on a un quart d'heure chaque jour à la télévision, ce qu'appelle les bébés shows. C'est les petites marionnettes où il y a tous les ministres, présidents de la République. On leur fait des caricatures incroyables parfois. Moi, je suis étonné du culot. Parce qu'il faut voir ce qu'ils se disent. Mais c'est le reflet de notre société. C'est le reflet de notre société. Et on se demande pourquoi ça ne va pas. Mais ça ne va pas, ça n'ira jamais. Mais alors, on pointe le doigt sur le président, pointe le doigt sur les ministres. Ils ne sont peut-être pas terribles. Moi, je ne veux pas prendre ici. Pas du tout. Mais je veux dire, on a les chefs qu'on mérite. Et le fait qu'on fasse ces choses contre les autorités, ça prouve que c'est en nous ce truc-là. Et le fait qu'on vende des vidéocassettes à la centaine, que les gens écoutent cette émission, ça montre que les gens aiment ça. Ça montre que c'est en eux, donc ils sont responsables à leur tour. Honore. On ne sait même plus ce que c'est. Pourtant, toute autorité vient de Dieu, dit Romains 13. Toute autorité... Toute autorité vient de Dieu. Moi, je crois que notre président était permis par Dieu. Je crois. Peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'il fait. C'est l'autorité établie. Pourquoi c'est l'autorité établie? Eh bien, puisqu'il y est. Sinon, ce serait vous qui auriez été. C'est lui. J'y peux rien. C'est lui, donc. Il a permis. Et en Suisse, c'est pareil. Mais on touche. Alors... Puis-je encore dire que Éphésiens 5 nous rappelle la relation mari-femme, femme-mari, parent-enfant, enfant-parent. Honore ton père, honore ta mère, je viens d'en parler. Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, on s'est donné pour elle. La féminité de la femme, qui est quelque chose qui est perdu. Moi, je suis désolé, hein. Vous savez, je suis peut-être vieille vague, hein, mais je crois quand même plutôt à la parole de Dieu qu'à la méthode du monde. Parce que moi, je voudrais la puissance de Dieu, je ne veux pas des clubs évangéliques. Eh bien, je peux vous dire, moi je crois fondamentalement Et là encore, le diable réussit à pénétrer l'Église. Je crois que fondamentalement, la femme n'a pas la même fonction que l'homme. La preuve, c'est qu'il y a que les femmes qui font des enfants. Faut se réveiller là, avec nos théologies qui crapahutent un peu partout. Faut se réveiller. Je crois que la fonction fondamentale de la femme, c'est la complémentarité de l'homme. Il y a des traits de caractère, il y a une féminité, il y a une douceur, il y a une retenue, qui est le propre du caractère féminin, que l'homme n'a absolument pas. Et c'est justement cet enrichissement que Dieu a donné à cette femme, pour qu'elle complète ce qui manque à l'homme. Et quand la femme perd sa féminité, quand la femme perd sa retenue, quand la femme perd sa douceur, elle perd la vocation pour laquelle elle a été créée. C'est tout, vous pouvez sortir des versets bibliques qui vous arrangent. Fondamentalement, dans la création, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et puis vous avez l'homme. On se demande maintenant si on a des hommes ou si on a des femmes parfois. Je crois à l'homme honoré, porte l'homme qui a la responsabilité publique, forte, la couverture, la protection, le chef du foyer, c'est-à-dire qui nourrit, qui prend soin du foyer. C'est pas le macho, c'est le directeur, c'est celui qui dirige, c'est le berger. C'est le bouclier, c'est le protecteur, c'est le parapluie, c'est la source de vie, c'est le repos, c'est la sécurité. Il est le rocher du foyer, complété par sa femme, et c'est la protection sur les enfants. Crois ça. Parce que ma Bible, à moi, me montre ça, même s'il y a tellement de bouquins évangéliques qui disent peut-être le contraire. Mes amis, qu'est-ce qu'on perd là? Qu'est-ce qu'on perd? On voit parfois des hommes, on dirait des vraies femmes, on voit parfois des femmes qui sont des vrais hommes. Ils ne se rendent même pas compte, parce qu'on a trouvé tellement d'arguments, ils ne se rendent même pas compte que le diable a réussi de détruire l'image de Dieu en eux. Parce que quand tu n'es plus ce que Dieu a voulu, tu es, en réalité le diable a réussi à détruire l'image que tu devais représenter de Dieu. Et si la femme n'est plus la femme, le diable a réussi de l'image de Dieu en elle. Et l'image de Dieu est en l'homme. Comprenez la bataille incroyable qui se joue spirituellement. Comprenez pourquoi il y a également tellement d'homosexuels maintenant. Je vous le dis, c'est parce qu'on a touché à l'image de Dieu dans l'homme, on a touché à l'image de Dieu dans la femme, on a dit, on a sorti des versets en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ça dépend où, ça dépend comment, mais quand je regarde une femme physiquement, que je mets un homme physiquement, à moins d'être un idiot raté, hein, je peux complètement con, c'est pas la même chose. On ne vit pas encore dans l'éternité, là-haut, oui, mais sur la terre, on est encore sur la terre. Et c'est dramatique maintenant de voir dans le nombre de gens qui viennent, qui ont fait des expériences homosexuelles. Il y en a toujours eu, mais avec cette quantité, moi, jamais j'ai vu ça. Excusez-moi du terme, mais c'est horrible. Mais on fonce, on a l'impression qu'il y a un bateau et tout le monde suit. Il faut avoir le courage d'aller à contre-courant. Vous savez, moi, il existe des foyers, je connais des foyers de serviteurs de Dieu. Quand vous parlez, c'est plutôt la femme qui dirige, même dans l'église. Ma Bible à moi ne dit pas ça. Et on se demande pourquoi les enfants, dès qu'ils peuvent, taillot de la maison. Pourquoi? Chers amis, je ne suis pas en train de faire de l'antiféminisme au nom qu'on a, je dis qu'on manque de femmes. Manque de femmes. On manque cette féminité. Vous savez, la femme, dans certaines situations, va sauver le mari. Mais si elle n'est plus une femme, elle ne sauve rien du tout. La femme a cette capacité d'amour qui courbe la tête. On dit que l'amour courbe les cœurs, pardon, qu'il courbe les cœurs, l'épée courbe la tête. Mais là où l'homme, avec ses gros sabots, vient, il cache tout, quand la femme passe, tout est arrangé. Elle est femme. Je lui ferai, a dit Dieu, une aide sans la veuve. C'est l'aide de l'homme, et l'homme ne peut pas se passer de la femme. C'est un pauvre type, l'homme. Ouais. Et je dirais, quel privilège d'être bien marié. Moi, j'ai vu des vocations se fichent en l'air. Moi, je remercie le Seigneur parce qu'il fallait me tromper plusieurs fois après ma conversion pour le mariage. Chaque fois, au dernier moment, j'ai prié Seigneur. Hein. Je remercie Dieu pour... Vous savez, vous avez une femme dans le ministère, c'est un don de Dieu où ça devient votre écharde. Hein. Quand vous êtes mal marié pour la vie. Homme ou femme. Mais quand vous savez, quand vous réalisez que là où vous êtes limité, vous êtes un pauvre type, vous avez une femme en or à côté de vous, là où vous comprenez le verset qui dit, une femme, c'est un don de Dieu. Moi, je remercie le Seigneur pour la femme qu'il m'a donnée. Plus intelligente que moi, plus cultivée que moi, je suis un pauvre type. C'est vrai, mais c'est pas elle qui porte les pantalons quand même. Frères et sœurs, c'est important. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, les femmes les plus fortes, vous savez, là, c'est la psychologie qui l'a montré, sont en réalité celles qui le sont au fond d'elles-mêmes, le plus insécurisées. Parce que, excusez-moi mesdames, mais vous avez besoin de sécurité au fond de vous-même. Parce que vous n'êtes pas fait pour être le capitaine du bord. Vous êtes fait pour compléter ce capitaine-là. Mais à un moment donné, vous craquez. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas les vôtres. Et l'homme qui parfois fait les choses de la femme est inapte. Il est inapte. Et je dirais qu'il faut vraiment redécouvrir. Ne touchons pas à ce qui n'est pas notre domaine. Mais quand chacun vit sa vocation dans l'unité, formidable. Des femmes qui gagnent plus d'hommes rien que par leur comportement, que nous par nos super prédications. Ça ne veut pas dire museler, ça ne veut pas dire bloquer. On dit, voilà, il faut que la femme soit la casserole en train. Mais non. Mais non, mais non. Non, 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 non. Ensemble dans le service. Ensemble. Mais pas pareil. Pas pareil. Dans ma Bible, c'est écrit pas pareil. Il faut choisir, mais je vais vous dire, vous pouvez détruire vos enfants. Vous pouvez détruire l'image de Dieu dans vos enfants. Vous pouvez détruire même une église. Un jour ou l'autre, si vous avez touché, vous êtes sorti de vos limites, un jour ou l'autre, vous en mourrez. Et je vous souhaite de mourir que physiquement. Mais il y en a qui sont morts spirituellement. Et j'en ai vu, j'ai quand même 32 ans de conversion. J'en ai vu. Passer gagner le monde. Ministère de ceci, ministère de jour, il y a une femme, un serviteur que Dieu a dit, mon mari a tel ministère, moi j'ai le mien. Je dis, sœur, si c'est de Dieu, alléluia. Mais ma Bible à moi me dit que ma femme, son ministère, c'est de me compléter. Je lui ferai une aide semblable. Ah, là, vous découvrez des horizons. Je ne parle pas des célibataires, là. Je parle des gens mariés. Mariés selon Dieu. Autre chose, on pourrait aller loin. Ce n'est pas mon thème ce matin. Sinon, dans 5 minutes, vous allez me sauter dessus. Mesdames, je ne vous en veux vraiment pas. Croyez-moi, je crois que les hommes, il y a beaucoup de femmes beaucoup plus intelligentes que les hommes. Beaucoup plus capables que les hommes. Dans nos églises, les gens les plus engagés, ce sont les femmes. À la croix de Jésus, il y a eu plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est pour moi aucune histoire de supériorité. Je crois, vraiment devant Dieu, non. Mais je dis que nous n'avons pas la même fonction. La preuve, regardez dans la vie. Regardez ces hommes gauchers, incapables de faire ce que vous ressentez. Pas fait pareil. L'homme, lui, il a la grande vision. La superbe église. Vous savez, l'homme, il est là, il dit, ah, il rentre à la maison, il va parler de sa femme, de super réveil qu'il va faire. Et la femme va le regarder en 2 secondes et elle dit, mais pourquoi t'as mis tes chaussures comme ça là dans le coin? La femme a le souci des détails. Dans tous les l'homme, il voit grand. La femme, elle voit tout. Dans tous les détails. On est différents. Je vous le dis parce que ma femme, elle rouspète après. Assez. C'est pas de l'infériorité. Non, on est différents. Alors vivons notre vocation dans nos limites et complétons-nous les uns les autres. Ça ne veut pas dire, vous savez, moi j'ai ma femme, elle parle à la radio, elle est responsable de beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que non. Mais il y a des choses qui sont à elle, il y a des choses qui sont en tant que femme, il y a des choses qui sont à l'homme en tant qu'homme. Nos limites. Important. Alors, Vous avez remarqué qu'il a dit, Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris, alors qu'il dit à l'homme, aimez vos femmes. Ah, tu sais ce qu'on est, quoi. Il nous a créés, puis il a vu le péché intervenir. Il sait combien on est attaqué dans nos pensées. Il met l'accent sur le problème de la soumission de la femme, et il met l'accent sur le problème de l'amour dans l'homme. La femme aime, naturellement, elle est faite pour aimer. Les plus grands ministères, vocations d'amour, c'est les femmes qui l'ont. L'homme se décide, hein, visionnaire. Faire l'église à Yung Gisho, il a fait 700 000, nous on va faire 1 million. Visionnaire. Hein? C'est important. Dieu met le doigt là où est notre danger. Mon danger à moi, c'est de manquer d'amour réel. Je dis l'amour réel envers ma femme. Le danger de ma femme en tant que femme, c'est de faire attention à la soumission qu'elle doit à son mari. Nous avons chacun nos luttes sur notre terre. C'est des luttes, c'est des combats. Mais la parole de Dieu dit que nous avons là de belles promesses. Vous avez encore un autre temps, avance vite. Vous avez un autre cas encore qui est étonnant dans la Bible. Joab, le chef de l'armée de David. Et un autre bonhomme qui s'appelait Shimei. Vous vous rappelez, Joab, lui, c'était le fonceur, et d'ailleurs il avait la foi. Joab, battant, défendait les guerres de l'Éternel au service de David, consacré à 100% à David, risquait sa vie pour David, risquait sa vie pour Israël. Un homme, donc, on pourrait dire, quand même, il était fidèle. Il y a eu deux ou trois fois seulement dans sa vie où il a franchi le Rubicon, où il a franchi la ligne jaune. Quand ? À un moment donné, David avait dit, ne touchez pas Absalom, mon fils. Il lui a planté un javelot dans le cœur. Une autre fois, ça a été Aner, le chef de l'armée ennemie, que David avait absous. Joab est venu et il l'a tué en traître. Deux fois. Par rapport à tout ce qu'il avait fait de bien, et on pouvait dire, finalement, c'était de l'énervement parce que Abner avait tué son frère ou des trucs comme ça. On aurait pu discuter beaucoup de choses. Il y a un autre détail, je ne me rappelle plus très bien, il y a un autre point où, justement, il avait, à un moment donné, franchi la limite. C'est quand il y a eu l'autre chef de l'armée qui est... Mais je veux simplement dire une chose. Des années plus tard, Joab avait une telle influence que David n'a pas pu le sanctionner. Il a dit, il est trop fort pour moi. David savait que s'il touchait à Joab, son armée éclaterait. Alors, il n'a pas pu, mais il n'a pas oublié. Et quand David va mourir, quand il fait son testament verbal à son fils Salomon, il dit, tu te souviendras de Joab, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Vous croyez que David était rancunier? Non! Il y avait une sanction qui devait être établie, il n'a pas pu le faire, mais il fallait qu'elle le fasse aux yeux de Dieu. Sinon, c'était David ou Salomon qui, plus tard, serait tenu responsable aux yeux de Dieu. Savez-vous que dans la législation de Dieu, le pardon n'évite pas la sanction? Dans beaucoup de choses. C'est parce que nous n'avons pas compris la notion de la sanction qui nous empêche de recommencer, s'il n'y a plus de sanction dans notre société, s'il n'y a que le pardon, d'où l'erreur éducative de bien des parents. L'enfant demande pardon, on le laisse recommencer, il recommencera toujours, tant qu'il n'a pas reçu une sanction qui bloque, parce que ce n'est pas seulement l'amour qui empêche un enfant de faire le mal, c'est la crainte de la sanction qui va venir. La sanction n'est pas une condamnation, la sanction est une aide qu'on donne à nos enfants, et la sanction est une aide pour que notre société marche, et là où il n'y a plus de sanction, il y a l'anarchie, il y a la destruction. La preuve, regardez le nombre de détenus en prison qui ne changent pas parce qu'ils ne sont pas sanctionnés, et savez-vous que Dieu est pour la peine de mort? Ça est écrit noir sur blanc. Dieu a institué la peine de mort par l'homme, le sang sera redemandé. Mais nous, on dit, mais non, Dieu n'a jamais voulu ça, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou, il sait ce que c'est que le péché. Et nous ne vivons pas encore au ciel dans le millénium? Ou dans le millénium? La sanction fait partie de la marche avec Dieu. Et il y a des choses que tu feras à un moment donné quand tu auras méprisé Dieu. Dieu te pardonnera peut-être, mais il te fera porter les conséquences. Et quelqu'un qui commet un adultère, il a un enfant qui en est né. Dieu te pardonnera peut-être ton adultère parce que tu te repens, mais l'enfant sera là. Il sera là, Dieu ne l'escapotera pas. Il sera là, tu porteras la conséquence de ton péché. Et dans beaucoup de nos vies, nous portons parfois la conséquence de ce que nous avons fait. Ça, pourquoi est-ce que je dis ça? Pour nos culpabilités? Non, mais pour dire attention, ne recommence pas. Parce qu'il y a des choses que tu portes toute ta vie. C'est important, mes amis, c'est important. On ne joue pas avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu. La Bible utilise encore un autre mot, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est écrit, mais nous, en France, c'est tellement léger. Mais il y a des conséquences. Alors regardez, Joab, finalement, Salomon est obligé de le tuer. Il va être amené à le tuer. Shimei, c'est celui qui a insulté David quand il fuyait son fils Absalom. Homme de sang, voilà, t'as récupéré ce que tu mérites. Vous savez combien parfois nos critiques contre des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont peut-être fauté. Mais c'est pas à nous de les enfoncer. La parole de Dieu dit que l'amour couvre. Elle ne dit pas que l'amour détruit. Mais on en est loin, c'est incroyable comme maintenant on se bagarre. C'est les mitrailleuses évangéliques. Un problème qui arrive à quelqu'un, mais tout le monde le sait. C'est ahurissant de savoir que n'importe quel chrétien sait, ou n'importe quelle personne dans le monde sait que tel serviteur est tombé. C'est ahurissant. Ma Bible à moi dit de couvrir, elle dit pas de sortir le drapeau, elle dit de couvrir. C'est déjà une honte devant les inconvertis, mais c'est destructeur au milieu du peuple de Dieu. Mais nous on y va, on défend la justice et la vérité, et on tue par la vérité. Mais non, il y a des gens qui discrètement sont appelés à s'occuper de ça. Mais le public ne devrait pas être mis au courant. Surtout qu'on y en rajoute, qu'on raconte des choses qui ne sont souvent pas justes. Léger. C'est incroyable comment on peut être léger. Et moi je le dis, même si c'est dans 20 ans, mais à un moment donné, la sanction descend. ton péché te retrouvera, dit la Bible. Hey, Chimé, il a insulté David. Va te sang, va se passer de poignarder. Ah, hein? David a eu la bonne réaction, il ne s'est pas défendu. Dieu lui a dit, tu as ça, Dieu a permis. Hein? Tu encaisses. Il y a des moments où il faut encaisser. Et si vous vous défendez, vous empêchez Dieu de vous défendre. Et comme quand ce n'est pas Dieu qui vous défend, vous vous défendez charnellement. Donc chaque fois que vous dites quelque chose, vous rallumez la flamme encore plus. Donc il faut se taire. C'est dur. Ça vous coupe la tête, ça vous fait éclater le cœur, mais il faut se taire. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez dit Jésus qui s'en remit à celui que j'ai justement. Il y a des moments où il ne faut plus le prêcher, il faut le vivre. David n'a rien dit. Mais vous remarquerez que quand David revient, il pardonne à Chimé qui vient lui demander pardon. David dit ça, là, c'est un jour de fête. Mais plus tard, il laissera le testament à Salomon. Tu n'oublieras pas Chimé, tu n'oublies pas Joab et tu n'oublies pas Chimé. Il y a une sanction, il avait touché à loin de Dieu. Hey, ce n'était pas de la vengeance humaine, c'était les directives de Dieu. Il fallait que les choses soient bien claires. Hey, on en est loin dans notre fragilité. Bon, je pourrais encore parler encore de Uzza. Vous savez, Uzza, c'est l'homme qui conduisait le chariot sur lequel était l'arche de l'Alliance. David avait organisé la grosse fête, hein. C'est comme si nous faisions une grosse rencontre évangélique avec toutes nos méthodes, notre marketing évangélique du monde, toutes nos méthodes publicitaires, le train-train, toute la fanfare de tout ce que vous voulez, parce qu'il faut aussi dire que là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein? On a plein, on a des réussites à fond. C'est tout humain. Dans beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrive, c'est que ce ne sont pas nos pubs, pas nos tracts, pas nos émissions de télé qui nous attirent les gens. Mais les gens savent qu'ici, au milieu de nous, il y a des miracles, des prodiges, des guérisons. C'est la puissance de Dieu qui attire, et non pas le marketing étudié qui a pénétré dans le milieu évangélique. C'est autre chose. À me dire, il faut bien vivre, c'est sûr. Il faut bien se débrouiller avec ce qu'on a. Il ne faut jamais prendre la paille pour le froment. Et je crois qu'il faut prier, même si peut-être Marfan est obligé d'utiliser des choses. Mais on voit que Jésus ne l'a pas fait. Et pourtant, Jésus avait des milliers de personnes autour de lui. Il le suivait. Nous, on essaye de les rattraper. Eux, ils le suivaient, ils lui collaient plein. Quelle différence d'esprit. Vous savez, je ne suis pas meilleur que les autres. Moi, je prie pour ça. Je crois qu'il faut qu'on y arrive. Je dis simplement ça. Je fais aussi parfois de la pub. Donc, je ne juge pas. Je dis comme les autres. Mais je ne dis pas qu'on a raison. Je suis en train d'étaler notre lamentable faiblesse. Mais Seigneur, étends ta main et donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. À combien on voit des signes, des prodiges, des miracles, là, que nos églises seront trop pleines. C'est ça qu'il faut, que le ciel s'ouvre. La visitation de Dieu, mais nous, réveillons-nous. Et ne laissons pas influencer par tout ce qui veut pénétrer dans nos vies. Alors Uzza, il est là, il conduit le char. Hein, David a fait son organisation, lui, sans tenir compte des directives de la Bible. Et puis à un moment donné, le chariot penche et l'arche va tomber. Et Uzza, c'est de la bonne volonté, il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Il met la main pour empêcher l'arche de tomber. Au même moment, il meurt. Est-ce que vous vous rendez compte, ça veut dire ce gars-là, plein de bonne volonté, on dirait un humanisme parfait. Plein de trucs, il s'est décarcassé pour conduire le char, il s'est décarcassé, il fait son possible pour empêcher l'arche de tomber, et ça lui coûte la vie instantanément. Pourquoi ? Parce qu'il avait perdu totalement la notion de la sainteté. Je vais dire quelque chose, hein. Là, hein, je crois que les chrétiens ont perdu la notion de la sainteté. Moi, je suis parfois étonné de voir le dimanche dans des cultes, des gens venir en jean, n'importe comment, habillés n'importe comment. Dieu, c'est notre ami. On est tellement relax. Décontracté. C'est le mot d'ordre actuel. Décontracté. Moi, je crois que quand je viens devant Dieu, je mets ma meilleure chemise. Je mets mon meilleur pantalon. Et si je peux, je mets un costume. Et en tant qu'homme, je suis content de pouvoir mettre la cravate. Parce que je ne viens pas pour être vu, je viens pour Dieu. C'est un jour quand même à part. Je ne fais pas la guerre des jours, mais c'est le jour du Seigneur. Ma Bible m'a dit que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et est-ce que je vais venir avec les mêmes habits? Est-ce que je vais venir comme ça devant Dieu, comme ça, parce que j'ai fait toute la semaine, parce que Dieu est mon... Mais non, Dieu est mon Père, mais c'est aussi mon Dieu. Et je viens l'honorer. Savez-vous que quand il y avait les rassemblements, les grands rassemblements en Israël, eh bien les gens se lavaient, purifiaient leur maison, etc., lavaient leurs vêtements. Quand Dieu descendait, hein, quand il y avait la préparation de la descente de Dieu au Sinaï, ou dans le temple, l'inauguration, ils étaient tous impeccables. Je veux dire, pourquoi on a perdu la notion de ça? Parce qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas que l'Esprit de Dieu en nous. Vous savez, si ton corps est impropre, tu attires des esprits. Mais il y a aussi l'Esprit de Dieu sur nous. Les vêtements qui ont touché Paul, ça avait une conséquence. Donc ceux qui me touchent, touchent le temple de Dieu, donc c'est normal que ce soit correct. Donc il faut bien savoir qu'il y a aussi l'onction de Dieu sur nous. Et si tu es décontracté dans ton habillement devant Dieu, je ne dis pas qu'il faut tous les jours être à quatre épingles, il peut être décontracté dans la vie de chaque jour, mais quand il y a des moments, il y a l'onction de Dieu sur toi, il y a l'onction de Dieu sur nos cultes. Nos cultes n'est pas une répétition monotone de toute notre, liturgie dominicale. Le culte, c'est la présence de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est la prophétie, c'est les miracles, c'est les guérisons instantanées, c'est la vie, quoi. Parce que l'onction n'est pas seulement en nous, elle est sur nous. Elle est sur nous individuellement, elle est sur nous communautairement, elle est sur le peuple rassemblé, je vais plus loin, elle est sur le bâtiment, parce qu'il est sanctifié, comme j'ai dit hier soir, et mis à part. La sainteté, c'est ça, la mise à part. Pas de la religiosité, la mise à part. Moi, je crois, sincèrement, je le crois. Je crois qu'on voit le manque de compréhension de la sainteté de Dieu dans la façon dont nous nous habillons quand on va au rendez-vous avec Dieu. J'ai Dieu avec moi tous les jours, ça c'est sûr. Mais il y a des moments particuliers où volontairement, que volontairement j'ai mis à part pour honorer Dieu. Et le dimanche matin, ce n'est pas pour recevoir une bénédiction. D'abord, c'est pour adorer mon Dieu. Je suis là pour lui. Dieu se plaît alors au milieu de la loi. Alors il me bénit. Mais c'est lui le premier servi. Dans tout mon être, dans les dispositions de mon cœur, dans les attitudes vestimentaires, dans mes objectifs, avec ce que je suis, avec mes biens, mon Dieu premier servi. Alors là, je suis béni. Comprenez, on en est loin. On en est loin. Un jour, il y a un responsable de l'accueil dans l'église, il m'a dit, tu sais, Pierre, ça devient difficile. Je dis, pourquoi? Il dit, j'ai demandé à des frères de distribuer la Sainte Cène. Ouais, ben, il y en a un qui ne voulait pas mettre la cravate. Il dit, je mets la cravate toute la semaine, je ne vois pas pourquoi je la mettrais le dimanche à l'église. Hein? On ne va pas le tuer pour une cravate. Hein? Il n'est pas écrit dans ma Bible, si tu ne mets pas une cravate, il n'ira pas au ciel. Vous savez, le sens du sacré, ça se révèle si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas ce matin, si vous réalisez, ben, demandez au Seigneur de vous la donner et commencez à agir. Attention, comprenez-moi bien, je ne suis pas un bon dieuzard. Pas en train de dire, attention, la couleur de notre attention. Non, je n'ai pas ça. Je parle de cette notion de sainteté, de respect, quand on vient dans la maison du Seigneur, et aussi devant le Seigneur. C'est sûr que la priorité est notre cœur. Ça ne sert à rien d'avoir un smoking, d'avoir le cœur dégoûtant. Non, alors viens pas, il vaut mieux pas. Mais, cœur et corps. Car nous glorifions Dieu également dans notre corps, pas seulement dans notre esprit. Car notre corps appartient à Dieu. Le Seigneur est pour notre corps et notre corps est pour le Seigneur. Alors glorifie Dieu aussi dans ton corps. Alors Uzza, il en est mort. Il en est mort. Vous voyez encore David et Bathsheba. Hein? David, pourtant formidable, appelé dans la Bible l'homme selon le cœur de Dieu. Et bien à un moment donné, il commet adultère et il tue Uri, le mari. Rendez compte, ce bonhomme-là, jusqu'où il peut arriver. Impensable! Pourtant, ça lui est arrivé, et je dirais que Dieu ne l'a pas rejeté, mais Dieu l'a sanctionné. Mais vous savez ce que Dieu lui dit quand il envoie Nathan? Dieu lui dit, parce que tu m'as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Vous savez, je vais vous dire, en tant que l'épée ne s'éloignera pas de toi. Dieu lui pardonne, Dieu te pardonne, dit Nathan, mais à partir de ce jour-là, la sanction, elle est là. L'épée ne s'éloignera plus de toi. Je crois à la restauration des ministères. J'ai des serviteurs de Dieu qui sont tombés. J'ai vu des serviteurs de Dieu tomber, qui ont été restaurés, qui ont fait plus de travail que les soi-disant bons serviteurs de Dieu, qui critiquent, mais qui ne font pas beaucoup de boulot. Hein? J'ai vu ces choses-là. Mais j'ai vu également ces mêmes serviteurs de Dieu porter une écharde et une sanction de Dieu toute leur vie. Parce que je crois que lorsque quelqu'un, à un moment donné, dans le service de Dieu, tombe dans l'adultère, dans son cœur, au moment où il l'a commis, il y a eu un mépris de Dieu. Il a dit, Dieu ne dira rien. Il a méprisé la sainteté du ministère auquel il a été appelé. Je crois, je le crois. Nous sommes tous tentés, dans le ministère ou dans la vie. Et si à un moment donné, lorsque vous êtes tentés, comme Joseph a été tenté, qu'est-ce qui l'a sauvé? Il a fui, scappa via, comme disent les Italiens. Il a fui, c'est la seule façon de s'en sortir. Parce qu'il a eu la crainte de Dieu. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, la tentation trouvera chez toi un accès. Mais si tu sais que Dieu ne va pas laisser passer la chose, si tu le sais, si tu n'as pas réduit Dieu à un bon dieuzard qui va te pardonner, mais si tu sais que si tu franchis la ligne jaune, il va te sanctionner, ton ministère sera marqué pour la vie, alors tu fuis. Ou alors, tu fais comme certains, tu méprises ça. Et alors la sanction viendra. Et David a franchi, il a méprisé. Clairement. Et Dieu lui a dit, parce que tu as méprisé, Tu m'as méprisé. Tu n'as pas seulement commis, mais tu n'as pas seulement touché avec cette femme, tu n'as pas seulement été tenté, tu m'as méprisé. Ça allait loin. Et il y a des fois, vous et moi, faisons attention. On sait au fond de nous. Tu pourras dire, mais Seigneur, c'était plus fort que ma part. Hein. Tu as méprisé. Tu devais fuir, tu ne l'as pas fait. Pour la vie. David, ça a été pour la vie. Bon, allez vite. David, parce qu'il connaît la leçon de Dieu, il dira à Salomon plus tard, si tu recherches Dieu, il te bénira. Sinon, il te rejettera à jamais. Moi, j'ai souligné dans mes notes le mot « à jamais ». À jamais. Et rappelez-vous l'épître aux Hébreux. On va y arriver tout à l'heure. Alors, Ananias et Saphira, vous voyez, qui apportaient leur offrande, leur dit, regardez-nous, on a vendu notre champ. Hein, vraiment les super chrétiens. Hein, écoutez, nous, on supporte l'œuvre de Dieu. On est ceux, c'est grâce à nous, à notre argent, que Dieu nous a bénis pour que nous soyons en bénédiction. Nous soutenons l'œuvre de Dieu. On a vendu le champ, voilà, apportons cet argent. Manque de chance pour eux, c'est que ce n'était pas tout ce qu'ils avaient gagné. Ils s'étaient fait passer meilleurs que pour ceux qu'ils étaient. Dieu ne leur avait rien demandé. Mais Pierre, parole de connaissance, lui dit, mais t'es fou, quoi. Vous pouvez garder le prix de ton champ, vous pouvez garder ton argent. Moi, je vous dis, vous pouvez garder votre argent. Vous savez, je vous l'ai dit, il a une mission, c'est dingue le nombre de trucs parfois qu'on a comme femme. Mais moi, le chrétien dit, garde ton argent. Garde ton argent, qu'est-ce que tu veux? Si c'est parce que tu veux te montrer, garde-le. Garde-le, il est pourri, ton argent. Garde-le. Parce que si tu le donnes pour te faire voir, tu te détruis. Et je dirais que la tentation est énorme maintenant, la difficulté est énorme, parce que maintenant, si vous donnez des offrandes à l'église, vous pouvez recevoir un reçu pour déduire de vos impôts. Vous savez, vous avez peut-être réfléchi, mais le monde, il est malin. Vous gagnez peut-être certaines choses, mais regardez le piège. Regardez le piège, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Ben nous, c'est même le percepteur qui le sait. Mais comprenez l'infiltration du monde dans notre relation avec Dieu. Comprenez pourquoi l'Église est faible. Je connais des gens qui refusent de faire la déclaration, qui refusent d'avoir des avantages de l'État parce qu'ils ne veulent pas que ça sache ce qu'ils ont donné. Peut-être parce qu'ils ne donnent rien. Mais peut-être parce qu'ils donnent beaucoup, mais qu'ils veulent avoir leur récompense dans les cieux, ils ne veulent pas l'avoir sur la terre. Oh, allez, je crois qu'on arrive à la fin. Je dirais en un mot, il y a encore la Sainte Cène, prendre la Sainte Cène indignement. On en reparlera cet après-midi ou ce soir. Ne pas tenter Dieu. Vous savez, quand je me suis converti, je me rappelle cette parole prophétique, Dieu m'a dit, je t'ai parlé plusieurs fois, maintenant c'est la dernière fois. Et je savais ce matin-là, je savais que c'était la dernière fois. Et que si maintenant je disais non, je serais perdu pour toujours. Je suis désolé pour ceux qui ont une théologie qui dirait jusqu'à la fin de ta vie, tu as de la chance. Je dis qu'à un moment donné, si tu dis non, il n'y a pour toi plus aucune possibilité. Ça, je suis sûr. Dieu me l'avait montré ce matin-là. On ne joue pas avec Dieu. Proverbe 3, 11, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Proverbe 11, 12, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Proverbe 13, 13, celui qui méprise la parole se perd. Proverbe 15, 32, celui qui rejette la correction méprise son âme. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors, je terminerai en disant ceci. D'abord, l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 10, c'est quand même important. Hébreux 10 nous dit au verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur d'un feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié. » Sur la déposition de deux ou trois témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu. Bon, alors comment s'en sortir? Je terminerai quand même côté positif, sinon vous allez vous faire une dépression. Comment s'en sortir? Premièrement, avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Et on rejoint les quatre terrains de la Bible, un cœur honnête. Un cœur honnête, c'est un cœur qui avale la pilule quand elle est difficile à avaler. Qui reconnaît qu'un chien, c'est un chat, c'est un chat. Et quand Dieu lui dit que c'est ça, il ne fuit pas, il ne se ment pas, il ne se trompe pas, il ne s'abuse pas lui-même. Et il veut la vérité, quel que soit le prix que ça lui coûte. L'amour de la vérité. Si tu ne l'as pas, vous savez, je vais vous dire, si tu es faux avec toi, écoutez bien ça, si tu es faux avec toi, et si tu es faux en toi, tu hériteras le mensonge et la perdition. Je le répète, si tu es faux avec toi et en toi, tu hériteras le mensonge et la perdition. Ça, c'est sûr. Pourra venir à tous les cultes, pourra donner des millions à l'heure de Dieu. Sois humble à tes yeux, aux yeux des autres, c'est le deuxième point. Repentance constamment, chaque fois qu'on voit qu'on chute, parce qu'on a besoin tous de nous repentir périodiquement. Se remplir du caractère de Jésus. Et je dirais encore ceci, servir le Seigneur. Si tu sers le Seigneur, alors tu es gardé. C'est ceux qui ne servent pas qui sont en danger. Mais si tu sais, il va te conduire dans tel truc que tu seras obligé de prier, obligé de te repentir, obligé de te nettoyer, obligé parce que tu sais que ton service devient impossible. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais enfin l'essentiel, je l'ai dit, je terminerai par l'histoire de Pierre. Pierre, un jour, a dit à Jésus, écoute, hein, les autres, c'est des rigolos. Moi, je suis le costaud. Tu peux compter sur moi. Si les autres te lâchent, moi, tu me connais. J'ai pêché du poisson, je dirige mon entreprise, moi je t'ai servi, tu as bien vu, je n'ai pas eu peur, je te servirai, je ne te trahirai jamais. Si les autres te lâchent, moi je ne t'abandonnerai pas. Ça a été enregistré dans le ciel ça. Et Pierre et Jésus qui sourient parce que, ça ne risque pas d'illusion, hein, sur nous. Jésus dit, écoute, hein, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Alors là, ça c'était trop pour l'orgueil de Pierre, ou pour l'orgueil inconscient, parce que je crois que ce garçon est sincère. Et orgueil inconscient, il dit, tu serais plaisante, non? Jamais. Alors, Jésus est arrêté, et Pierre tient le coup. Pendant tout un temps, il sort l'épée au moment de l'arrestation, il coupe l'oreille un de l'autre, du serviteur du sacrificateur. Jésus l'arrête, alors Pierre est déconnecté, il ne comprend plus comment il voulait défendre son maître. Il est complètement criblé, il est désarçonné, il ne sait plus quoi faire. Et quand on ne sait plus quoi faire, on devient vulnérable. Et à ce moment-là, il craque. Et quand il est dénoncé par la servante autour du feu, chez le Caïphe, il se parjure. Connais pas cet homme. Pas une fois, la deuxième fois. Connais pas cet homme. La troisième fois, il se met en colère, il blasphème. Dis quoi? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, je connais pas cet homme. Ça, il blasphème. Et alors le coq chante, Jésus le regarde, et puis il sort et il pleure. Ça, c'est vous et moi, à notre niveau chacun. Et puis, il y a la main de Dieu qui passe, à la résurrection, au bord du lac. Quand Jésus a préparé un feu, un feu semblable à celui de la soirée de la trahison, hein, Jésus est là, et il dit à Pierre, qui devait être drôlement gêné, quoique Jésus était déjà apparu à Pierre après la résurrection, pour, je pense, le réconforter, et Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, agapémé, m'aimes-tu, mais dans le sens de tu m'aimes, à ne jamais m'abandonner, à ne jamais me trahir. Jésus reprend ce que Pierre a dit. Seigneur, si tous te t'aiment, moi, agapété. Alors Pierre, qui commence à sentir le vent venir, dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, filéoté, je t'aime, bien, je t'aime. Jésus continue une deuxième fois. Simon, fils de Jonas, agapémé. Comme s'il n'avait pas entendu le mot filio, Pierre commence à avoir les larmes, parce que Jésus pose la question une deuxième fois. Seigneur, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, filio. Seigneur, filioté. Alors la troisième fois, Jésus lui dit, mais Pierre, filiomé. Jésus ne dit plus agapémé, il dit filiomé. C'est-à-dire, tu m'aimes bien. Ça voulait dire à Pierre, mais Dieu m'a dit un jour agapé. Maintenant, tu dis plus que filio. Ton amour est descendu ou quoi? Vous voyez? Alors Pierre s'effondre. Et il dit quelque chose que j'aimerais vous laisser en mot de conclusion, à vous et à moi, parce que c'est ça qui nous sauvera toujours. Jésus dit, Seigneur, tu sais toute chose. Il ne va plus faire du grec, ni de l'hébreu, ni agapé, ni philéo. Il dit, Seigneur, tu sais une chose. Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Et ça veut dire quoi pour vous et pour moi? Si tu as craqué, si j'ai craqué, si je me suis trompé, si j'ai fait des erreurs, si parfois j'ai été dépassé par les événements, si parfois j'ai fait tout mon possible, mais que quand même, ça a été trop fort pour moi. Alors, essayons pas de jouer les galonnés. Cachons pas nos transgressions. Fuyons pas nos responsabilités. Mais soyons simples, soyons vrais. Et disons, Seigneur, je suis un pauvre type, ou pas grand-chose, je pense à faire bien, j'ai mal fait. Le bien que je voulais faire, je l'ai pas fait. Le mal que je voulais pas faire, je l'ai fait quand même. Mais Seigneur, malgré toute la pourriture qui est en moi, Seigneur, j'ose le dire, je t'aime quand même. Et quand tu dis ça au Seigneur, malgré tes échecs, alors, cette proclamation vraie de l'amour que lui-même en réalité a mis en toi, va être comme une bouée qui te fera remonter à la surface. Et tu entendras la voix de Jésus qui dira, paie mes brebis, paie mes agneaux. Parce que Dieu nous remet toujours dans le ministère. Dieu nous remet toujours dans le Seigneur. Si nous avons vraiment de l'amour pour lui. Car l'amour triomphe de la mort. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Mais ne jouons pas avec Dieu. C'est important. Afin que la bénédiction de Dieu repose sur nos foyers, nos familles, sur nos maisons, sur nos églises, sur nos pays. Et que Jésus revienne bientôt. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Tu inscris ces choses en nous. Tu les rends réelles pour chacun et chacune d'entre nous. Et tu nous préserves du mal. Mais tu nous réjouis également par cet amour que tu répands dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À toi la louange. À toi notre attente, notre confiance. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Radio Certitude.
Nous venons d'entendre le pasteur Pierre Trouchel nous parler sur le mépris des moments de Dieu.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.